Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Dans un monde où la technologie prend de plus en plus de place, où la domotique s'installe dans nos habitats et notre quotidien, où l'on ouvre des perspectives pas toujours bienveillantes sur le transhumanisme et la cybergénétique, à l'heure où les pylônes 5G et autres relais téléphoniques et électriques envahissent notre champ de vie autant que les champs visuels, limitant la présence du vivant végétal et animal. À cette heure où tout passe par le smartphone, par Internet, par le virtuel des ondes qui quadrillent notre espace, nos vies, de plus en plus de personnes signalent des douleurs, des ressentis, des perturbations. On les appelle les électrosensibles. Définition souvent mise à la négative d'une société qui se veut toujours plus technologique. L'électrosensibilité, qu'est-ce que c'est ? Ce que l'on peut retrouver comme définition générale, c'est une électrosensibilité qui se caractérise par des symptômes peu spécifiques, non expliqués par un examen clinique et que les patients attribuent à l'exposition à des champs électromagnétiques. En gros, pour faire bref, on ne donne pas vraiment de définition générale dans l'information collective. Pour parler de ce sujet sensible, je reçois aujourd'hui Christelle Vettoretti-Vidal, naturopathe à l'USECH, mais surtout souffrant d'électro-hypersensibilité. Bonjour Christelle.
Bonjour Daniel.
Nous allons aborder ensemble les différents symptômes que tu peux rencontrer ainsi que ton parcours au milieu des ondes. Déjà, un grand merci à toi de venir communiquer ton témoignage ici, sachant la difficulté que tu peux avoir avec les ondes électromagnétiques.
Oui, merci de m'accueillir et de me permettre de partager un peu mon cas, puisqu'on en parle peu, on en parle un peu plus, mais je suis contente d'être là pour partager la situation. Et oui, effectivement, tous les endroits qui émettent un peu des ondes, où il y a ne serait-ce même que de l'électricité un peu plus qu'ailleurs, ou effectivement que les ondes Wi-Fi et tout ça, oui, c'est un peu un problème, parce que tout de suite, les symptômes apparaissent au bout de quelques minutes, quelques fois, au bout d'une heure, ça dépend. Ça dépend comment je suis, ça dépend comment la densité des ondes. Mais bon, ça va aller.
On a vu dans l'introduction la manière synthétique peut être abordée pour le grand public l'électrosensibilité. Qu'est-ce que toi, tu pourrais en dire ? Ce côté très synthétique, pas forcément identifiable en tant que maladie telle quelle.
C'est pas identifiable parce que même quand on va voir un médecin et qu'on explique ses symptômes, alors les symptômes... Ok, on peut avoir de la fatigue, des douleurs, des picotements, enfin tous les symptômes, des vertiges. Mais si on dit que c'est à cause des ondes, alors là, tout de suite, on vous dit non, là, il faut arrêter. Enfin, souvent dans la médecine, hein, parce que même quand on le dit aux personnes, on est souvent rayonné. Mais voilà, un docteur, j'ai deux médecins qui m'ont attribué l'électro-hypersensibilité, mais mon médecin ou des médecins généralistes ou c'est sûrement pas ça. Voilà, ils n'admettent pas qu'on puisse être malade à cause des ondes, qu'on puisse avoir des symptômes à cause des ondes. Ça, ils le reconnaissent pas.
Alors justement, dans ce cadre-là, comment est-ce que tu as pu, toi, être diagnostiquée et à partir de quand tu as pu être diagnostiquée ?
Alors moi, j'ai été diagnostiquée il y a à peu près 3-4 ans. En fait, je suis allée voir un dentiste holistique parce que j'avais des plombages dans la bouche. J'avais 8 plombages. Et j'avais lu... C'est le docteur, le dentiste Gérard Dieuzet à Toulouse. De toute façon, il plaide la cause et il soigne les gens électro-hypersensibles par la bouche. Et notamment avec des amalgames, avec tout ce qu'on peut mettre dans la bouche qui n'est pas... qui peut être rejeté ou qui peut faire... antenne, si j'ai envie de dire, comme ça. Mais voilà, du coup, je suis allée le voir à lui. Lui, il n'a jamais nié que j'étais électrosensible. Il m'a dit, mais bien sûr, oui, c'est logique. Il m'a testé, puisqu'il fait des tests posturaux. Voilà, vous pouvez aller sur son site et vous verrez comment ça se passe. C'est très étrange, mais c'est parlant. C'est nettement parlant. Moi, j'avais 5 docteurs devant moi, puisque ce jour-là, il formait des médecins à la médecine holistique. Très intéressant. Il m'a demandé si je voulais bien. Ah, j'ai dit avec plaisir, encore mieux. Comme ça, j'ai dit, va aller déjà un peu plus loin dans la consultation. Et en plus, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. Et effectivement, c'était hyper bluffant parce que c'est des tests posturaux tout bêtes. Mais alors, c'est très parlant. Donc, du coup, lui n'a jamais nié puisque j'étais là pour ça et qu'il l'a reconnu. Et ensuite, je suis allée voir un médecin généraliste à Toulouse parce qu'on soupçonnait. Alors, moi, j'ai écarté des choses aussi. J'étais OK, je sais parce que... mon parcours m'a prouvé que c'était les ondes, hein, par rapport au Wi-Fi que j'avais dans l'appartement et tout ça. Mais je suis allée voir un médecin parce que j'avais peur d'avoir la maladie de Lyme. Parce que la maladie de Lyme aussi provoque des symptômes qui peuvent être similaires, en ayant parlé avec des gens qui l'ont. Donc je suis allée voir une médecin généraliste à Toulouse qui est spécialiste de la maladie de Lyme, mais qui est surtout médecin holistique. Pour moi, étant naturopathe aujourd'hui, elle m'a fait une anamnèse de naturopathe, clairement. Voilà. Alors, je n'ai parlé de l'électrohypersensibilité qu'à la fin. Qu'à la fin de la consultation, donc la consultation dure à peu près 1h30 ou 2h, avec des questions très diverses, mais... qui parle, et elle m'a dit oui, bien sûr que vous êtes électro-hypersensible, c'est logique. Voilà. Donc par rapport à toutes les questions qu'elle m'a posées, par rapport à mon parcours, par rapport aujourd'hui, je n'ai aucun doute sur l'électro-hypersensibilité, puisque évidemment quand je suis exposée, j'ai les symptômes, enfin voilà, je suis pas... Mais oui, par rapport à ces deux médecins qui m'ont clairement diagnostiqué, aujourd'hui je peux dire que je suis électro-hypersensible.
Concrètement, quand tu parles de médecine ou de dentiste holistique, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? C'est quoi exactement l'approche ?
Alors, la médecine holistique, c'est vraiment la médecine où on va prendre la personne dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas soigner un symptôme, on va aller chercher déjà l'origine du symptôme et analyser la personne donc avec des questions, ça peut être avec des analyses sérologiques, ça peut être avec plein de choses, mais on va prendre la personne dans sa globalité, savoir pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a ses symptômes, aller chercher au plus profond les causes des symptômes. Et ça peut être environnemental, ça peut être psycho-émotionnel, ça peut être alimentaire, ça peut être... Voilà, on va aller chercher...
Ce qui permet justement, ces médecines, ces approches holistiques, ça va permettre une prise globale de la personne en tant qu'être et non plus en tant que numéro ou en tant que symptôme en particulier.
C'est ça, puisque la médecine allopathique, très bien, j'ai rien contre surtout, mais on va soigner généralement un symptôme, on va mettre un traitement sur un symptôme et c'est assez rare qu'on en cherche vraiment l'origine comme dans la médecine holistique.
Donc là, on a un petit peu la genèse de la démarche médicale qui a précédé un petit peu l'identification de l'électrosensibilité que tu traverses, que tu subis finalement. Quand je dis subis, est-ce que ça te correspond comme terme ou est-ce que tu verrais autre chose ?
Oui, non, je subis parce que j'avais pu choisir, je n'aurais pas été électro-hypersensible. Et puis aujourd'hui, il y a des ondes partout. Donc effectivement, on est obligé de le subir. Nous, électro-hypersensibles, moi j'ai la chance d'habiter à la campagne. J'habite dans un hameau, il y a 5 maisons, dont 2 secondaires. Il en reste 3 habitées. Malgré tout, les portables de mes voisins, le Wi-Fi, jusqu'à l'imprimante, me pose un petit peu problème. Chez moi, j'ai réussi à me protéger. J'ai une antenne relais sur la colline d'en face, elle est à 1800 mètres à vol d'oiseau. Mais je sais que, voilà, moi je me réveille tous les matins avec mal de tête, j'ai des pertes d'équilibre. Mais j'ai quand même trouvé des solutions pour atténuer quand même ces effets. À condition de ne pas m'y exposer, évidemment. Quand j'y suis exposée, là, tout de suite, les effets reviennent. Mais chez moi, j'ai fait des démarches et j'ai fait des soins qui me permettent de résister un peu plus, peut-être.
Donc, on va y revenir ultérieurement. Ce qui peut être intéressant aussi d'observer, c'est que suite à ces démarches de rencontres médicales, est-ce que les professionnels en face t'ont apporté des solutions ou des idées de manière à avoir une vie moins violente pour toi ?
Alors, par rapport à l'électro-hypersensibilité, par rapport au dentiste, j'ai fait enlever mes plombages, donc j'ai fait une dépose d'amalgame. Les effets ne se sont pas fait ressentir tout de suite, parce qu'une dépose d'amalgame, c'est très violent, hein. On relargue le mercure. Même si le protocole a été respecté à fond, hein, c'est-à-dire un plombage tous les 1,5 mois, 2 mois, avec un protocole champ opératoire, cannule hyperaspirante, enfin protection, masque, lunettes, enfin il y a un protocole d'une demi-heure pour faire une extraction de 5 minutes par exemple, pour vous illustrer un peu le truc. Mais à partir du 3e jour, comme ça a relargué malgré tout le mercure, on est dans un état 1000 fois pire qu'avant de le faire. Donc il faut à peu près 6 semaines pour s'en remettre et pour recontinuer. Bon, moi, les 8 amalgames, ça m'a pris 1,5 an pour les enlever. Donc j'ai été réintoxiquée aux métaux lourds. Alors, je n'ai pas été soignée, je n'ai pas fait de chélation. Donc, la chélation, c'est faire rejeter les métaux lourds par des substances ou naturelles ou chimiques. Je ne l'ai pas fait parce que, justement, le médecin généraliste de Toulouse qui m'avait reçu me l'a fortement déconseillé. Voilà, puisqu'on relargue et on repasse par les organes et elle avait peur que je sois repolluée dans les autres organes. Bon, voilà. Mais après, donc, c'est allé mieux quand même. Par rapport à ça, ça s'est atténué. J'avais quand même des symptômes propres au plombage, hein, c'est-à-dire que j'avais très mal aux oreilles, très mal à la tête, très mal dans la bouche en général. C'est-à-dire que la salivation sur les plombages émette le mercure, propage le mercure, diffuse le mercure. Donc, quand on a des plombages en permanence, de toute façon, on est intoxiqué au mercure. Donc là, ces symptômes-là directs se sont atténués et se sont quasiment arrêtés, dans la mesure où je n'étais pas exposée. Ensuite, les traitements, il n'y en a pas, enfin moi, on ne m'en a pas proposé. On m'a juste dit, alors il y a des traitements, des complémentations alimentaires. C'est-à-dire que souvent, on est carencé en vitamines, en minéraux, donc on doit recomplémenter un peu plus que la normale. Pour retrouver un peu d'énergie, pour se protéger un peu. Mais après, c'est sans protéger. Donc du coup, là, on a fait intervenir un géobiologue.
Voilà, et justement, cette démarche-là au niveau du géobiologue, ça permet d'observer à quel point l'impact de l'environnement immédiat peut être faillible pour l'organisme, pour soi, pour les autres. Et la présence, justement, du travail en géobiologie, qui a été, je crois, assez efficace pour toi au niveau informatif et pratique.
Est-ce que tu peux le détailler ? Oui, tout à fait. Donc, il a passé 6 heures dans la maison. Donc, il a tout exploité au niveau des ondes. C'est-à-dire, il a fait les ondes telluriques, qui viennent du sol naturel. Il a fait les ondes environnementales, ondes électromagnétiques. Il a fait l'électricité dans la maison. Enfin, tout ce qui peut émettre une onde, au final, électrique ou électromagnétique. Donc, il nous a fait un diagnostic, il a fait un bilan. Et là, il y a eu des modifications à faire, des modifications quand même assez importantes. Nous avons une maison en bois avec une armature en rails de placo, enfin avec des rails de placo. Donc il a fallu ramener tous ces rails à la terre puisque ça formait une cage de Faraday. Donc une cage de Faraday, c'est une caisse métallique qui va alors de l'extérieur ne pas faire rentrer les ondes, mais de l'intérieur, du coup les ondes qui sont à l'intérieur de cette cage de Faraday, voilà, c'est mille fois, c'est pire quoi, parce que pour imager, elles rebondissent un petit peu sur le fer, sur les matières métalliques, et elles s'amplifient. Donc pour moi, c'était très problématique. On a relié les menuiseries. Et ensuite, on a enlevé tout ce qui, au niveau électrique, ou on a modifié au niveau électrique tout ce qui pouvait me gêner. C'est-à-dire une lampe de chevet dans une chambre, un radio réveil, surtout dans la chambre. On a bien protégé la chambre. Même dans le salon où on se repose, même dans la salle à manger où je mange, il a fallu enlever des luminaires. Il a fallu mettre des interrupteurs qui vraiment, quand la lumière est éteinte, ne laisse plus passer l'électricité, puisqu'il faut savoir que quand on branche une prise dans un sens ou dans l'autre, l'électricité passe ou ne passe plus, même quand l'appareil est éteint. Donc là, il nous a mis des interrupteurs qui bloquent. Enfin bon, on a fait pas mal de travaux à ce niveau-là. Après, ma maison, elle est sur une butte, elle est sur une colline et elle est en bois. Bon, mais ça, c'est très négatif pour l'électrohypersensibilité.
Alors qu'on a tendance à penser, justement, dans la base écologique, la construction de maisons en bois, quelque chose de très sain et d'épuré. Et là, tu nous dis, pour quelqu'un d'électro-hypersensible, c'est à déconseiller.
Et voilà, le bois est conducteur. Je ne savais pas. Voilà, le bois est conducteur. Donc, du coup, il conduit l'électricité un peu plus que le béton ou les autres matières. Et sur une colline, parce que du coup, on est exposé à toutes les antennes qui sont elles-mêmes sur les collines.
Et qui ont relativement proliféré ces derniers mois. Justement, comment tu le vis, tout ça ?
C'est compliqué. Donc moi, j'ai mon antenne relais qui est toujours là, en face de la maison. Ils en ont construit une autre. Donc j'imagine qu'il va y avoir d'autres émetteurs qui vont être posés dessus. Moi, toute seule, je ne peux pas y faire grand-chose. Je sais qu'il y a des associations qui sont créées, tout ça, et qui se battent, vraiment. On n'en parle pas, hein, mais elles se battent, vraiment. Et moi, personnellement, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, il faudra que je déménage. Peut-être que je ne sais pas, mais c'est compliqué parce que je me rends compte que, même si d'un côté, je fais ce qu'il faut pour aller mieux, au niveau de mon énergie, donc je fais des soins énergétiques depuis 3 ans, il me redonne une meilleure énergie, je vais mieux physiquement et énergétiquement. Donc, je suis un peu plus résistante, entre guillemets. Enfin, en tout cas, elles vont me fatiguer moins vite. Mais je me rends compte quand même qu'au fur et à mesure du temps, alors il y a aussi les voisins qui ont des objets de plus en plus connectés. J'imagine, voilà, mais, enfin, je le sais, tout le monde a son portable, tout le monde, enfin, voilà, donc du coup, c'est compliqué parce que je me rends bien compte qu'au jour le jour, ça, ouais, ça empire, ouais.
Et en dehors, justement, de la démarche en géobio, en géobiologie, je précise, quels sont les autres aspects que toi, tu as réussi à ajouter dans ton quotidien, à peut-être au niveau des portables, au niveau des... Quand tu reçois du monde, comment ça se passe ?
Alors, les portables, donc, à la maison, ils sont tous en mode avion. Bon, j'ai un ado à la maison, c'est pas toujours facile. Donc, il a son portable qui est parfois allumé. Et, bon, je peux pas lui en vouloir, mais c'est son moyen de communication, c'est comme ça. Mais par contre, au bout d'un moment, je tiens plus. Alors, soit je vais dehors, parce que s'il est dans la maison, ou soit je lui demande de sortir de la maison, ou soit je lui demande carrément de se mettre en mode avion pour un temps, parce que c'est plus tenable. Alors, les gens, sur ma porte, il y a un petit panneau comme quoi il faut couper son portable. Bon, tout le monde ne le voit pas, mais bon. Sinon, je le dis. Chez moi, je le dis. Voilà, j'arrive à le dire, je dis voilà. Bon, la plupart le savent, mais ceux qui ne me connaissent pas et qui vont rester un moment, ceux qui restent pas longtemps, à la limite, c'est pas grave, mais ceux qui vont rester un moment, je leur demande. Le plus compliqué, c'est quand je vais chez les gens. Je ne sais pas demander, je n'ose pas m'imposer, j'ose pas... voilà, donc là, c'est plus compliqué. Donc, du coup...
Donc, tu subis, en fait.
Je subis. Bah, alors, par rapport à ça, la vie sociale est très, très... très, très restreinte, là. Par contre, on s'isole. On n'a pas le choix. Au début, on explique aux gens qu'on ne peut pas venir dîner parce qu'il y a du monde et qu'il va y avoir des ondes et que je ne vais pas supporter. Bon, mais ce n'est pas grave, on va tous s'éteindre. On va tous... alors, c'est super, au début... On arrive chez les gens qui savent, et voilà, ils éteignent le wifi, les jeunes, non, on n'avait pas le droit de mettre le portable. Bon, ça dure 2-3 fois, après c'est fini, après ça on n'y pense plus. Je ne sais pas demander, donc, mais ils le savent, je veux dire, donc, bon. Après, oui, il y a des endroits où je ne peux pas aller, où je vais, enfin, j'essaie de me priver, alors, si je dois aller faire les magasins, parce que j'ai envie d'aller faire les magasins, je vais y aller. Bon, ça ne va pas durer toute une journée, ça c'est pas possible, mais voilà, je vais faire un magasin, je vais rester dehors après pendant 20 minutes, enfin... me ressourcer un peu, me décharger. Voilà, c'est vraiment au ralenti, au compte-gouttes. Après, après, on s'isole. On s'isole, on fait moins de choses. Le cinéma, c'est pas possible. Les choses où je vais rester enfermée avec beaucoup de portables allumés ou du Wi-Fi qui est intense, ça, c'est plus possible. Voilà. Donc, il y a des choses dont on doit se... on peut pas. Donc, il y a des choses dont je me prive. Et le reste, où je prends plaisir, dîner avec des amis ou aller au restaurant ou les choses comme ça, bon, mais je le fais. Après, je me repose. Je suis pas bien, mais je me repose.
Tu me dis qu'après, tu es obligée de te reposer. Est-ce que, justement, ça ne serait pas dû au fait qu'il n'y ait pas de réelle information autour de l'électro-hypersensibilité ?
C'est clair qu'il y a un gros problème au niveau de l'information, parce qu'il n'y a pas effectivement de réelle information, et quand il y en a, elles ne sont pas vraiment crédibles, elles ne sont pas exactes en fait. On dirait qu'on veut cacher. Bon, il y a un lobby derrière, hein, ça ne faut pas se leurrer, il y a un lobby derrière. Mais aujourd'hui, alors aujourd'hui j'ai constaté que quand j'en parle, on me répond souvent, on me répond « Ah mais tiens, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que j'ai constaté que... » Voilà, ça arrive de plus en plus souvent. Mais au début, il y a quelques temps, on me riait au nez. Enfin, on voyait quelqu'un de marginal, qui somatise, qui invente, qui dit ça parce que ça l'arrange peut-être. Je sais pas, mais on était rayonnés. C'est pas médiatisé, l'électro-hypersensibilité, c'est sûr, mais il y a des très bons sites qui donnent de très très bonnes informations. Il y a des recherches, il y a des études de fait, hein, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Donc moi, j'essaie d'informer les gens. Ça vient de moi, mais quand même, j'ai quand même derrière des informations... En ayant vu les médecins que j'ai vus, en ayant vu le géobiologue, j'ai quand même des informations qui sont quand même palpables, enfin, qui sont là, qui existent, je veux dire. Enfin, elles existent pour moi, en tout cas, mais elles ont existé pour mon mari, pour mon fils, pour tout mon entourage qui vit avec moi la chose. Même s'ils n'ont pas les symptômes, ils se sont bien rendus compte qu'effectivement, quand il n'y a plus de wifi dans la maison, ah ben oui, on dort mieux, alors qu'ils pensaient bien dormir. Ah ben oui, on est plus apaisé, ah ben oui, on est moins hyperactif, enfin... Voilà, ils ont constaté ça aussi alors qu'ils n'avaient pas de symptômes à la base. Donc aujourd'hui, l'information, elle est complètement biaisée parce que quand on lit un article dans un magazine ou lambda, je veux dire, pas spécialisé dans le sujet, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est parfois c'est même un peu humiliant.
Oui, on l'a vu avec la description que j'ai lue tout à l'heure, donc l'électrosensibilité qui est considérée comme une maladie dans laquelle on ne peut pas établir de réel diagnostic. Ça reste du flou, ça reste de l'imperceptible. Concrètement, c'est aussi une maladie qui ne se voit pas, qui n'est pas facilement identifiable par l'extérieur. Mais quand on parle d'électrosensibilité, est-ce qu'on peut définir électrosensibilité à quelqu'un qui n'a pas le sentiment de le ressentir ? Parce que, en effet, dans une pièce, ben, c'est comme pour tout, personne n'a la même perception. Et toi, par exemple, tu peux souffrir d'un branchement, moi peut-être moins du même branchement, et une tierce personne, on ne le percevra pas du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un réel impact de ce branchement sur les trois personnes.
Ah, mais de toute façon, l'électricité et l'onde électromagnétique agissent sur l'organisme. De toute façon, elle agit sur le système cellulaire. De toute façon. Alors après, effectivement, il y a ceux qui le sentent physiquement, il y a ceux qui ne le sentent pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le sent pas qu'il n'y a pas effectivement un impact sur l'organisme, en tout cas, ou sur le vivant. De toute façon, il y a eu des expériences de fait. Vous mettez une plante verte à côté de votre box, je ne lui donne pas 15 jours. Regardez ces vaches qui donnent plus de lait ou qui donnent des veaux morts parce qu'il y a une antenne relais qui s'est implantée, parce qu'il y a des panneaux photovoltaïques sur le bâtiment. On a fait germer des graines, on a fait deux boîtes de graines, une exposée au Wi-Fi, une dans un endroit neutre, enfin sans onde. La première n'a pas germé, la deuxième a germé normalement. Voilà, donc il y a plein quand même de choses qui font qu'on sait que l'onde agit sur l'organisme. Ça, c'est inévitable.
Alors concrètement, avec tous ces constats qui paraissent une évidence, comment expliquer aujourd'hui la prolifération d'antennes sur les toits, d'antennes sur les collines, d'antennes sur les écoles, d'antennes à proximité des médiathèques, des mairies, des pompiers, partout.
Partout. Ça pousse comme des fleurs. Il y a un lobby derrière tout ça, évidemment. Je pense que, voilà, on n'est pas dupes, hein. On sait qu'il y a un lobby. L'argent, pas du gain, parfois, passe au-delà de la santé des gens. Ça passe au-dessus, c'est beaucoup plus intéressant que se demander. Mais on le sait, de toute façon, ils le savent. Je veux dire, ils le savent. Mais les médecins, enfin, on a quand même testé l'onde électromagnétique, l'armée a testé l'onde électromagnétique au niveau des populations, au niveau de la météo. On sait qu'à cause de ça, et à cause des ondes, ne serait-ce que les rouges-gorges qui sont complètement déboussolés et qui sont morts parce qu'ils ne trouvent plus les endroits où ils ont leur nourriture. Je parle du rouge-gorge parce que j'ai vu un article dessus et que c'est vrai. Mais c'est valable pour plein d'oiseaux migrateurs. Mais aujourd'hui, comment je l'explique ? Alors, il y a le cercle vertueux ou vicieux, j'en sais rien, mais qui fait qu'on en offre et on en demande de plus en plus. C'est-à-dire que les personnes, on leur a dit, là, bientôt, avec la 5G, vous allez avoir votre téléchargement en un clin d'œil. Mais c'est super. Enfin, je veux dire, perso, je ne vois pas l'intérêt. Mais il y a plein de monde pour qui c'est génial. Enfin, aujourd'hui, on enlève, par exemple, ne serait-ce que pour le téléphone, on enlève les lignes fixes. Donc aujourd'hui, c'est le portable. Et là où il ne passe pas, c'est dramatique. Les gens, ils ne veulent plus qu'il y ait des zones blanches parce qu'on ne peut plus communiquer, parce que s'il nous arrive quelque chose. Donc du coup, il y a une offre et il y a une demande qui est, j'ai l'impression, encore plus importante. Donc il y a toujours une offre derrière qui va arriver et qui va être de pire en pire.
Mais là, on passe complètement hors de la notion bénéfice-risque, puisqu'on peut quand même observer que l'électrosensibilité est de plus en plus présente au niveau des individus. Tu es là essentiellement pour en témoigner. Et cette électrosensibilité, elle crée des désagréments, mais aussi elle crée des symptômes, elle crée des syndromes sur la durée.
Bien sûr, oui, de plus en plus, comme tu dis. Donc, je ne sais pas, ils ferment les yeux. Moi, je pense qu'ils ferment les yeux parce que ça existe et ils le savent. Je n'ai pas la réponse là, mais c'est grave. Pour moi, c'est très grave ce qui se passe.
Et on parlait justement d'antennes un petit peu positionnées n'importe où. Que penser des antennes posées sur les écoles ou à proximité ou sur les lieux communs, sur les lieux collectifs ?
Ben déjà, on oublie qu'il y a des personnes électro-hypersensibles qui vivent partout, donc déjà c'est problématique pour celles-là, mais c'est problématique pour tout le monde et notamment pour les enfants. Les enfants, on a constaté, il y a eu des, c'est pareil, c'est pas dit, mais il y a eu des constatations des enfants qui ont déclaré des leucémies ou des lymphomes dans des écoles, des nombres anormalement élevés. Donc là, il y a eu suppression des antennes relais à proximité de ces écoles. mais pas partout, hein, juste là où les enfants étaient malades. Après, c'est problématique, oui, partout, enfin, là où il y a du public. Alors voilà, toujours pareil, il y a du public, donc il faut qu'il y ait des ondes, donc il faut qu'il y ait le réseau. Donc... Enfin, moi, encore une fois, je dis que c'est grave. Pour moi, c'est très grave ce qu'on fait. Surtout au niveau des enfants, parce qu'il faut savoir que quand même, la maturité cellulaire, hein, immunitaire chez un enfant, elle finit... je ne sais plus, je crois que c'est 7, 11 ans, quelque chose comme ça.
À l'adolescence.
Voilà. Donc, les enfants de moins de 7 ans, on va dire, déjà, ne devraient pas être exposés. Il y a un liquide céphalo-rachidien qui est très perméable. Alors, encore moins dans le ventre de la maman, avec le liquide amniotique. Hein, donc, par rapport à ces enfants, déjà, moi, je dis pas d'ondes. Alors, j'allais dire pas d'écran. À la limite, si le téléphone est en mode avion, à la limite, je vais me dire pourquoi pas. Mais allez dans un magasin de jouets, vous verrez que de 0 à 7 ans, il n'y a pas de portable à vendre, il y a plein d'autres choses. Donc l'enfant, vous pouvez l'occuper vraiment autrement, il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est pas dire de ne pas les mettre devant les écrans, c'est de dire ne pas les exposer aux ondes, c'est-à-dire éteignez votre Wi-Fi aussi à la maison. Le Wi-Fi, je dis souvent, je le compare à la douche, je dis la douche, vous ne la laissez pas allumer toute la journée, vous y passez 5 minutes. Le Wi-Fi, c'est pareil, vous l'allumez quand vous en avez besoin. Voilà, et surtout, vous l'éteignez la nuit. C'est essentiel. Surtout s'il y a des enfants, mais même pour tout le monde. Imaginez que vous avez un voisin électro-hypersensible. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est bon pour tout le monde de couper ces ondes parce que, comme je disais tout à l'heure, elles créent une hyperactivité. Elles empêchent le repos de l'organisme. Elles empêchent la régénération des cellules. Elles empêchent le bon fonctionnement de l'organisme, tout simplement. Donc, si on y est 24 heures sur 24, mais imaginez, au mieux, on peut être très fatigué. Au pire, on tombe malade.
Donc, ça reste quand même assez grave. Sur le plan physiologique.
Bien sûr. Mais bien sûr.
Toi, aujourd'hui, tu te situes où par rapport à, à tous ces symptômes?
C'est compliqué. Je ne vais pas dire que je suis au plus mal, parce que comme je vous dis, je me protège, je m'isole. Mais malgré tout, ça m'a beaucoup affaibli. Et plus on prend de l'âge, et plus le symptôme, quand on va être exposé, va être aigu, et plus il va laisser des séquelles. La fatigue, les douleurs, oui, le brouillard cognitif notamment, ça c'est compliqué, c'est-à-dire que quand on est exposé depuis un moment, on finit par chercher ses mots, on finit par plus suivre une conversation, enfin ça devient extrêmement compliqué, et tout ça avec l'âge, hein, je suis pas hyper vieille, mais avec l'âge, ça s'amplifie, donc ce phénomène ne va pas s'améliorer, et mon cas ne va pas s'améliorer non plus.
Donc, on va aborder peut-être le côté un peu plus pratique. Est-ce que, selon toi, est-ce qu'il y a des possibilités de s'en protéger? Et si oui, lesquelles?
Alors, s'en protéger, c'est s'en éloigner. Donc, ça, c'est pas possible pour tout le monde. Moi, je pense souvent aux gens qui habitent en ville ou qui travaillent. Bon, aujourd'hui, l'électro-hypersensible ne peut plus travailler là où il y a des ondes. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est même plus possible. Donc, c'est des gens qui sont en arrêt maladie. C'est des gens qui ont perdu leur travail et qui ont rejoint la campagne et qui sont isolés avec un RSA ou je sais pas, mais qui ont vraiment perdu beaucoup de leur vie sociale, de leur vie financière et qui se retrouvent des fois dans des situations très très compliquées. Moi je fais du soin énergétique, ce qui m'aide à résister aussi un petit peu plus. Voilà, donc je fais de la biokinergie, ça fait 3 ans que je suis suivie en biokinergie, je fais des séances tous les 1 mois et demi à peu près. Et franchement, j'ai vu la différence à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que même en ayant fait tous les travaux que j'avais fait chez moi, aujourd'hui, je vais mieux. J'ai l'impression d'être quand même... Alors, vous allez me dire, c'est paradoxal parce que vous me dites que ça va... Mais c'est-à-dire que, je vous prends un exemple, je suis invitée chez des amis. Avant, il aurait fallu que je me repose pendant une journée et vraiment que je ne prévoie de rien faire pendant 3-4 jours qui suivent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je peux aller chez des amis. Je ne dis pas que je ne vais rien avoir. Je vais avoir mal à la tête, je vais être fatiguée. Mais le lendemain, ça va être très, très, très au ralenti, mais je vais repartir. Voilà. Donc, dans le soin énergétique, il y a quand même une vitalité, une énergie vitale qui est quand même reboostée. Mais après, vraiment, quand je suis exposée, ça revient très vite, les symptômes reviennent très vite, malgré tout.
Tu nous parlais précédemment des difficultés professionnelles que pouvaient rencontrer les hypersensibles, ce qui peut générer également des frais. Hein, toutes ces démarches, que ce soit la géobiologie, que ce soit les démarches énergétiques ou autres, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que les personnes sont confrontées à une problématique qui n'est pas visible, pas visuelle, pas forcément reconnue par l'OMS et qui se retrouvent en difficulté, qui ne peut pratiquement pas prendre soin de soi.
En l'occurrence, dans mon cas, c'est le soin énergétique, donc c'est pas remboursé, comme tous les soins holistiques, voilà. c'est des personnes, moi j'en ai reçu et avec, à qui je vais donner, par exemple, comme je vous disais, des complémentations, des choses comme ça. Pareil, moi j'ai pas d'ordonnance, c'est pas remboursé, donc c'est des gens qui peuvent pas toujours. C'est des gens qui peuvent pas faire les travaux nécessaires. Moi je pense à l'électricité dans la maison. On peut mettre des filtres, on peut faire des choses comme ça, mais c'est hors de prix. Et faire un diagnostic par un géobiologue, c'est un coût aussi. Puis faire les travaux derrière aussi. Enfin oui, effectivement, quand la personne se retrouve sans emploi avec des difficultés financières, ouais, elle a pas spécialement les moyens de faire la démarche que j'ai faite, ça c'est sûr.
Est-ce non. qu'il y aurait des aides qui pourraient
Alors,
intervenir ?
Non, j'ai pas l'info là, mais j'imagine qu'il doit y avoir des associations d'électro-hypersensibles. Ça oui, ça existe, et aller auprès d'eux s'informer, peut-être, ouais.
Et aujourd'hui, comment peut-on communiquer cette prise de conscience ?
Ben déjà, par la radio, c'est super, là, ce que vous faites. Donc ça, c'est génial. Et s'il faut, je reviendrai, même s'il faut, avec un géobiologue, pour en parler. Peut-être plus scientifiquement, entre guillemets. Voilà, parce que moi, c'est mon point de vue de malade, entre guillemets, encore pathologique. Après, la communication, ben, ça serait bien que tout le monde s'y mette un peu, les médias. Les électrosensibles, à un certain moment, ont essayé de faire un peu de forcing, mais on a été très vite arrêtés. On a été traités comme des marginaux, enfin bon, bref. Donc, du coup, pourquoi pas, oui, créer des choses et les diffuser, je sais pas, oui, le biais de la radio, du journal, de faire des articles, ouais, essayer que ça tourne comme ça, ouais, des interviews, voilà, ouais, c'est bien.
Quel message, toi, aujourd'hui, en tant qu'électro-hypersensible, tu aimerais pouvoir transmettre aux auditeurs qui pourraient se poser des questions et qui auraient envie d'être acteurs avec toi, qu'ils soient ou pas électro-hypersensibles?
Ben déjà, se rencontrer, déjà, dans un premier temps, parce que je pense que si on en discute, ils pourront peut-être comprendre un peu mieux. Aller vers les bonnes sources d'informations. Il y en a, comme je disais tout à l'heure, il y a des sites, il y a... voilà, notamment, il y a le site des Robins des Toits, qui est vraiment très, très indicatif, qui renseigne vraiment bien, qui font des démarches, il y a les dernières nouvelles, voilà. Bon, il faut aller sur le site, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas médiatisé. Ils l'ont été, il y a une dizaine d'années, quand moi, j'ai découvert mon hypersensibilité, grâce d'ailleurs à ce site-là et à Étienne Sandrier qui était le porte-parole à l'époque. On le voyait à la télé, on le voyait dans les médias. Bon, aujourd'hui, il a disparu. On le voit plus. Le site est pas du tout médiatisé. Voilà. Mais aller déjà vers les sources fiables, les sources vraiment sérieuses, hein, pas les articles qu'on peut lire dans des presses tout à fait banales. Donc, ces gens, s'ils ont envie vraiment de recevoir une vraie information, rencontrer les gens qui ont de la vraie information. Voilà, déjà.
Toi, dans ton ressenti, qu'est-ce que tu aimerais là dire pour que les personnes entendent vraiment ta démarche ?
Alors moi, j'aimerais leur dire, déjà, écoutez vos symptômes, parce que je suis sûre aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont des symptômes. Alors aujourd'hui, on est fatigué. Voilà, tout est fatigant au final. Aujourd'hui, on est fatigué, on a mal à la tête, on est... écoutez vos symptômes, regardez votre environnement, regardez comment vous vivez, votre rythme de vie, ce qu'il y a autour de vous, au travail, à la maison. Et essayez d'analyser ce qui ferait que peut-être, sans ces ondes, peut-être ça irait mieux. Et de faire le test. À la maison, on enlève tout, on voit si on va mieux. Voilà, et d'essayer de le propager, c'est-à-dire que tiens, on va éteindre par exemple le Wi-Fi la nuit, on va le dire aux voisins, on va le dire à la famille, moi je sais que j'ai entendu quelqu'un qui disait, effectivement ça s'est avéré que même ça, en n'ayant pas réellement de symptômes, ils se sont rendus compte en enlevant le Wi-Fi la nuit que si, finalement ils dormaient mieux, que le matin ils se réveillaient mieux, ils avaient moins mal à la tête, tout ça. Voilà, essayer de propager un petit peu cette information, de faire l'expérience, de se relier à la nature aussi, sortir dans la forêt, voilà.
Et si on profitait de ce que tu es en train de nous communiquer dans l'importance de débrancher au minima la nuit toutes les box, tous les Wi-Fi, de lancer une proposition, un petit jeu à nos auditeurs. Et si chacun de nous, peut-être le soir de la diffusion de cette émission, vous prenez la décision de tout débrancher, au moins pendant la nuit, téléphone, télé, Wi-Fi, Internet, tout, au moins pendant une nuit. Peut-être, c'est également une contribution à la planète. C'est pas mal non plus.
Très bonne
idée. Et quel que soit le nombre de personnes qui vont être dans ce petit jeu, dans cette petite tentative de « je débranche » pour vous, pour votre environnement, mais également pour la planète, pour tous les électro-hypersensibles, connus ou inconnus, qui sont autour de vous. Ça peut être un petit jeu. Qu'est-ce que tu en penses ?
Ah mais c'est super, moi je suis d'accord et je leur dis merci à ceux qui veulent bien le faire. Donc je lance le défi, bon je sais pas si ça va être un défi mais peut-être pour
certains. Un petit jeu.
Ce soir, ben ouais, vous débranchez tout, vous mettez vos portables en mode avion, et puis à la limite on éteint la télé et on fait autre chose, on bouquine, on fait un jeu avec les enfants, ou on va dehors se promener, alors peut-être qu'il va faire nuit un peu tôt, mais c'est pas grave, on se met dans le jardin ou quoi. Et puis on déconnecte, ouais, au moins cette nuit et puis peut-être la nuit suivante et puis... Peut-être que ça sera un réflexe, et puis peut-être que ce sera une habitude, et puis vous direz, oh, c'est tellement bien, allez, on continue.
Voilà, c'est un beau message. On va terminer cette émission, et je tiens à effectuer un grand merci à Christelle de ta présence et de ton témoignage ici. Tu as effectué le déplacement alors que tu es hyper électrosensible, c'est même pas électrosensible, c'est hyper électrosensible. Et encore et toujours, merci. Merci infiniment, Christelle.
Merci à toi, Daniel. Je suis contente d'avoir partagé cette émission parce que des fois, je l'écoute et je me dis quand même que c'est percutant. Merci à toi. Et effectivement, c'est une démarche qui me demande un effort et une énergie. Mais ça vaut le coup parce que je veux vraiment partager ce qui est quand même un problème pour certaines personnes, véritablement.
Si, comme Christelle, vous souhaitez témoigner d'une maladie, de symptômes, ou si vous vous sentez acteur du vivant et que vous désirez partager votre expérience, n'hésitez surtout pas à me contacter en message personnel sur la page Facebook « Fenêtre sur soi ». Parce que le partage d'idées est créateur, qu'il apporte réflexion et contribue au mieux-être. C'était Daniel pour l'émission de « Fenêtre sur soi » en compagnie de Christelle, que vous pourrez retrouver pour des accompagnements en naturopathie au cabinet Claude Duras à Luzèche. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur les pages Facebook de Fenêtre sur soi et du cabinet Claude Duras. Je vous souhaite, en compagnie de Christelle, du soleil dans votre tête et des sourires dans votre cœur. À très vite.
À très vite. Beaucoup de bonheur à tout le monde.
Je suis touché par le vent, ému devant vos larmes fragiles. Chaviré par le temps, il me livre à l'exil. Ma vie tient un fil. Entre les ondes, je pars le nord, je cherche l'ombre. Ne me débranchez pas, rattachez-moi, le courant passe, mais trop pour moi. Ma vie ne tient qu'un fil, je suis électro-sensible. Je suis risible, certains se plaisent à le dire. On dit que j'imagine, je ne suis pas fou. Ma tête brûle sous le toit des villes. Un mal invisible, ma vie tient un fil. Entre les ondes, je pars le nord, je cherche l'encre. Ne me débranchez pas, rattachez-moi, le courant passe, mais trop pour moi. Ma vie ne tient qu'un fil, je suis électro-sensible, et toi tu restes là. Et on se tient sur la corde raide ensemble. Je suis le funambule et toi mon impédance, ma survie, ma toile, mon ange. Ma vie tient un fil. Entre les ondes, je pars le nord, je cherche l'ombre. ne me débranchez pas. Rattachez-moi, le courant passe, mais trop pour moi. Ma vie ne tient qu'à un fil, je suis électro-sensible.